commerçants d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. L'Europe, c'est le continent urbain par excellence. Un Européen sur quatre vit dans une grande ville. Le phénomène va s'amplifiant depuis 40 ans. La Banque européenne d'investissement, la BEI, estime ainsi qu'en 2080, 90% des Européens habiteront en ville et parle de siècle métropolitain. Parallèlement, toutes les capitales et les grandes villes européennes font face à un phénomène de gentrification, avec un départ des classes populaires au bénéfice de populations plus aisées. À Londres, cela s'accompagne d'une privatisation croissante des rues et des quartiers. Certains appartiennent désormais à des compagnies privées, même si les Londoniens qui s'y aventurent ne s'en rendent pas toujours compte. On appelle ça les POPs, les espaces publics privatisés. C'est un reportage de Marie Billon.
Jerry n'est pas un ancien danseur étoile qui fait des pointes en plein milieu du trottoir. Pourtant, il se balance d'un pied à l'autre sur la chaussée dans le quartier d'Elephant and Castle, au sud de Londres.
Si on fait un petit pas à droite, on se retrouve en terrain privé. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Si on fait un pas à gauche, on est sur la chaussée publique et on est peut-être plus libre. Mais la différence est invisible pour les gens.
En fait, si on se penche ou qu'on a de très bons yeux, on peut voir des sortes de têtes de clous de la taille d'une pièce de monnaie plantées en plein milieu du trottoir sur plusieurs mètres. Ce sont elles qui délimitent l'espace public et privé ici. Jerry a grandi dans ce quartier appelé aujourd'hui Elephant Park, qui était avant la cité HLM de Highgate.
Je crois que j'arrive à déterminer où ma famille vivait. C'était au coin d'Ash Avenue, là où un nouveau pub est en train de s'installer.
La famille de Jerry a dû quitter la cité en 2007, quand les habitations à loyer modéré ont été vidées puis détruites et le quartier refait à neuf. Le projet dit de régénération a été dirigé par le conglomérat Lendlease, qui a investi plus de 3 milliards d'euros. L'entreprise privée détient non seulement les logements, plus luxueux pour la plupart que les HLM d'avant, mais s'est aussi entendu avec les autorités locales pour conserver les droits sur les voies publiques. Une moitié du trottoir donc, comme l'a montré Jerry, qui mène sur un petit parc.
Nous sommes sur un terrain privé. Enfin, je crois, c'est difficile à déterminer à 100%. Mais on se promène près de bancs colorés dans des jardins joliment dessinés, parsemés de troncs sur lesquels on peut s'asseoir. On peut traverser cet espace vert pour aller au travail, aller à l'école ou juste se détendre. Ce n'est pas un souci. Mais il y a des limites à ce qu'on peut faire et on doit les découvrir par soi-même. Là, on se promène sans être embêté, mais de temps en temps, on aperçoit un agent de sécurité. Et s'il vous voit faire quelque chose de non autorisé, il viendra de vous demander ce que vous faites. L'ambiance est différente. Ce n'est pas un espace public comme avant.
Savoir ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, comme les délimitations de l'espace public et privé, ce n'est écrit nulle part. Ce qui est certain, c'est que ce qu'un Londonien a le droit de faire sur un trottoir 100% public, il ne peut pas automatiquement le faire sur le trottoir d'un POPS, d'un espace public privatisé. Par exemple, un garde au gilet fluorescent nous a repéré et parle dans un talkie-walkie. Nous n'avons peut-être pas le droit de faire un interview ici. Il est certain par contre que nous n'avons pas le droit de faire d'interview sur un autre POPS qui se trouve aux abords de l'ex-mairie de Londres. Nous sommes maintenant sur les bords de Tamise, dans le quartier de More London. Au pied du fameux pont de Tower Bridge, nous rencontrons Nicolas Bossetti du centre de réflexion Center for London.
Ici, nous sommes dans un quartier qui a été entièrement reconstruit autour de l'an 2000. Et faisant partie de ce deal, on a autorisé le propriétaire de ces terrains à en garder la propriété, y compris pour les espaces publics et les rues. On les a aussi autorisés à mettre des règles sur comment cet espace pourrait être utilisé, puisqu'il est le leur. On se retrouve donc dans une situation qui est franchement assez choquante. Il n'y a pas de panneau qui nous dit ce qu'on peut faire une fois qu'on a franchi cette limite et ce qu'on ne peut pas faire. Si je prends des photos, je pense qu'on posera des questions. Savoir dans quel but je prends ces photos. Je ne pourrais probablement pas non plus décider de venir avec de la musique et par exemple de faire une répète de danse avec des amis ou une chorégraphie. Puis il y a aussi des activités qui sont essentielles pour la vie d'une démocratie, comme les manifestations, qui sont probablement pas autorisé ici, tout du moins sans autorisation préalable.
La mairie de Londres elle-même ne sait pas combien il y a de pops à Londres actuellement. Les derniers chiffres auxquels elle a accès datent de 2017. Il y a 5 ans donc, il y avait au moins 57 espaces publics privatisés dans la capitale. Ils couvraient plus de l'équivalent de 33 terrains de football. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. C'est bien que ça arrange certaines personnes, dit le chercheur.
Ces entreprises qui possèdent des espaces publics le font parce qu'elles réalisent qu'il y a un intérêt à le faire. Et c'est s'assurer que ces espaces maximisent la fréquentation vers leurs espaces commerciaux, vers leurs magasins, leurs restaurants. Maintenant, évidemment, c'est leur intérêt. Ce n'est pas nécessairement l'intérêt du grand public. Une des raisons pour lesquelles les différentes municipalités de Londres, finalement, ne sont pas non plus très intéressées par la reprise de ces espaces publics, c'est qu'ils coûtent de l'argent à maintenir. Un argent qu'elles n'ont pas en ce moment. Donc finalement, ça les arrange aussi un petit peu que ce soit le secteur privé qui s'occupe de leur maintien.
Sakine Achek ne dirait pas que ça l'arrange, mais cet élu travailliste de l'Assemblée de Londres confirme que la baisse des budgets municipaux due à la politique d'austérité du gouvernement national lie les mains de la mairie et des autorités locales.
L'austérité a certainement mené à la création de plus de pops, mais c'est aussi en ligne avec la philosophie du gouvernement actuel, qui veut que le planning urbain soit plus entre les mains des promoteurs immobiliers privés que des autorités locales. Ça crée un déficit démocratique au cœur des espaces publics. J'espère que les POPs ne vont pas continuer à se développer.
Mais la mairie semble ne pas avoir l'argent, ou bien est-ce la volonté ou même le pouvoir d'arrêter la multiplication de ces POPs. Le maire a en effet des responsabilités limitées, mais la majorité de gauche, au pouvoir depuis 2016, a quand même tenté, il y a 6 mois, de définir les règles de ces espaces publics privatisés.
Sadiq Khan a publié une charte pour les espaces publics de la capitale en octobre dernier. Ce document appelle notamment à respecter des principes de base, comme de la bonne communication. Si des règles spécifiques régissent un certain espace, la charte demande à ce qu'elle soit édictée clairement.
La majorité travailliste à la mairie n'a pas su dire combien de développeurs ont signé cette charte, ce qui est obligatoire depuis sa publication. Quant aux détenteurs de POPs datant d'avant la publication de la charte, ils peuvent y adhérer volontairement, mais comme la mairie de Londres ne sait pas combien il y a d'espaces publics privatisés sur son territoire, personne ne pourra aller toquer à leur porte pour leur demander d'y adhérer.
Rendez-vous à Stockholm, la capitale de la Suède, est aussi le berceau du groupe suédois le plus connu au monde, ABBA. Alors quand des habitants de Stockholm accusent le parolier et pilier d'ABBA, Björn Ulvaeus, d'endommager un parc national et un bâtiment historique en pleine ville, ça fait forcément du bruit. C'est un reportage de Frédéric Fou.
Ce quartier de Djurgården, en bord de mer, les touristes l'adorent. D'abord parce qu'il y a le musée ABBA, où l'on peut chanter les tubes du groupe au milieu des clones de Björn, Benny, Agneta et Frida. Pour Stéphane et sa fille Daphné, venus de Belgique, c'est un vrai plaisir de fan.
Ce sont des chansons, quand on les écoute en début de journée, on les garde en tête toute la journée.
Pour moi, c'est beaucoup de nostalgie, ce qui est bizarre pour mon jeune âge, mais ma marraine jouait ça tout le temps dans la voiture et regarder les films ensemble. Donc oui, c'est beaucoup de joie.
Juste à côté, il y a le parc d'attractions de Grönalund, où le groupe a lancé son spectacle cabaret Mamma Mia Party. En face, il y a le Circus. Cette salle de concert a été achetée par Pop House, l'entreprise de divertissement de Björn Ulvaeus, le parolier de ABBA. À côté, enfin, c'est Hasselbacken, mythique hôtel-restaurant que ce même Björn Ulvaeus vient d'acquérir. Et c'est justement ce qui a mis le feu aux poudres. Carl-Fredrik Paleus, qui préside l'association Sauver Djurgården, nous fait la visite de ce monument historique qui, selon lui, est menacé par les plans grandioses de la star.
Hasselbacken est connu en Suède depuis des siècles, notamment grâce à Carl Michael Bellman, un écrivain célèbre qui a écrit de nombreuses chansons historiques au XVIIIe siècle. L'une d'entre elles a été composée sous ce chêne. Donc cette terrasse, avec vue sur Stockholm, va être démolie pour construire un grand espace souterrain et au-dessus des immeubles cylindriques très hauts. Ce qui veut dire aussi que la statue de Bellman va être déplacée et que son chêne est menacé.
Le problème, c'est que ce quartier est situé à l'intérieur du parc national urbain de Stockholm, Djurgården, une vaste zone de prairies et de forêts qui traverse le centre de la capitale suédoise et où toute nouvelle construction est théoriquement interdite, sauf pour des rénovations ou des extensions qui respectent l'esprit des lieux. Or, à Hasselbacken, les dégradations ont déjà commencé.
Là, c'est une destruction illégale faite par l'entreprise de Björn Ulvaeus, celle d'un pavillon de musique qui était là. Mais il a aussi détruit le porche de Hasselbacken. Son entreprise possède maintenant la majeure partie de ce quartier. Un de ses dirigeants a dit qu'il envisageait de faire une sorte d'Abaland inspiré de Disney World.
Depuis, Björn Ulvaeus a récusé cette comparaison douteuse. La star vit à Stockholm depuis un demi-siècle et il est très impliqué dans la vie culturelle et économique de sa ville. Il multiplie les investissements, possède plusieurs salles de spectacle. Et quand il nous reçoit dans l'ancienne salle de bal de Hasselbacken, avec ses fresques délavées et ses lustres empoussiérés, c'est d'abord pour raconter ses liens avec ce quartier.
Quand j'ai commencé ma carrière musicale dans un groupe folk, on a eu un premier hit en 1963 et on a joué à Grönaland, une scène légendaire. Il y a tant de grands artistes qui sont passés par là, comme Frank Sinatra. Ça a été mes premiers pas à Djurgården.
Le but avoué de Björn Ulvaeus, c'est de faire de cette partie de Djurgården à nouveau le Broadway de Stockholm, une zone de fêtes et de spectacles. Et Hasselbacken est essentiel dans ce dispositif.
Je ne veux pas recréer Hasselbacken à l'identique, mais je veux recréer la même atmosphère qu'on y trouvait dans les années 1900. À cette époque, on servait 2000 clients à midi. C'est cet âge d'or que je veux retrouver. Qu'on puisse y écouter des concerts, voir des expositions pour des gens d'ici, mais aussi de plus loin. Et puis s'amuser et vivre des expériences. C'est ce qu'on a toujours fait dans cette partie de Djurgården.
Des plans ambitieux, mais qui se heurtent cette fois à une forte opposition. L'association Sauver Djurgården, qui tire la sonnette d'alarme sur d'autres projets de développement au sein du parc, rassemble d'importantes associations de défense de l'environnement et plusieurs milliers d'adhérents. Parmi eux, l'auteur et publiciste Claes Britton. Il s'est affronté avec Björn Ulvaeus à coups de tribune dans la presse quotidienne et il s'inquiète de son influence.
Il n'est pas traité comme les autres, c'est comme un dieu en Suède. Des politiques viennent le voir juste pour avoir un selfie avec Björn Ulvaeus. Notre combat est très important car si quelqu'un obtient un permis pour des travaux comme ça, quelqu'un d'autre voudra faire la même chose, et puis un autre, car il y a de l'argent à se faire.
Si les permis de construire de Björn Ulvaeus étaient approuvés, Sauver Djurgården a déjà promis de poursuivre son combat devant les tribunaux.
Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, si on échangeait de peau.
Ces dernières semaines, une vidéo a fait le buzz dans les Balkans. Il s'agit d'un montage de 36 tubes balkaniques de ces 40 dernières années. 11 minutes 45 de musique qui font mal. Cette vidéo, titrée « Violence contre les femmes dans les chansons de chez nous », montre comment la pop banalise les discours masculinistes. Simon Rico.
Punis-moi comme une enfant, j'aimerais à nouveau être le tapis sur lequel tu marches. Frappe-moi fort pour que ça me fasse mal. Jette-moi dehors comme une poubelle. Tu peux me violer, tu peux me frapper. C'est pareil. Voilà quelques-unes des paroles de chansons sélectionnées par Anna Ninkovic pour réaliser ce montage édifiant, son mémoire vidéo de fin d'études à la Faculté des Arts Dramatiques de Belgrade. Rien ne prédestinait ce travail de recherche universitaire à devenir viral et à faire le tour des médias balkaniques, mais mis bout à bout ces extraits ont fini par créer une onde de choc et une prise de conscience, surtout au moment où le mouvement MeToo commence enfin à émerger dans les pays post-yougoslaves. Dans ce montage, on peut entendre des titres de pop, de turbo-folk, ce répertoire folklorique matiné d'eurodance et de rap paru entre 1981 et 2020. Comme le précise le cartel introductif, cela veut donc dire que ce genre de narratif, qui présente les hommes comme des héros, dont la force les conduit parfois à l'agressivité ou à la violence, et les femmes comme devant se taire et leur rester fidèles jusqu'à la mort, domine depuis au moins 40 ans dans la musique populaire des Balkans. L'humiliation des femmes est présentée comme romantique et la preuve ultime de leur amour envers les hommes. La relativisation et parfois la promotion de la violence masculine est le thème central dans ces 36 tubes de vedettes de Serbie, de Croatie, de Bosnie-Herzégovine et de Slovénie, remarque Anna Ninković. Bien sûr, la musique populaire n'est que l'écho de ces discours dominants masculinistes dans les Balkans, mais comme le déplorent les organisations féministes, ces tubes contribuent à les légitimer et à les ancrer dans les mentalités.
Casquette, lunettes, toi ça sonne en cross, esquive les képis, la barrette en poche, tol, swipe, entretien en poche, évite les conneries, la daronne prend de l'âge, 500 boucanes pour faire 5-5, cherche des vaillants pour venir 5-5, au quartier les gens ils deviennent ding-ding, on est entre nous, tu peux poser le fling-fling, suffit des mecs bien devenir clochard, et des clochards devenir patron, tu veux savoir pourquoi je fais pas la star, l'argent tout ça, ça m'attire pas trop.
Cap sur le sud de la France. À Marseille, le cannabis et les trafics qui vont avec ont des conséquences dramatiques. Dans certains quartiers pauvres de la ville, la vente illégale de stupéfiants rapporte des milliers d'euros par jour à certains trafiquants qui embauchent, parfois très jeunes, des Marseillais et parfois des jeunes venus d'autres villes pour travailler sur les points de deal. Et la concurrence entre les réseaux a des conséquences terribles. C'est un reportage de Yoram Melloul, notre correspondant à Marseille.
Baya Sedik est une ancienne habitante de la cité Fonds Vert dans les quartiers nord. Au début des années 2010, un point de deal s'installe en bas de son immeuble. Elle tient Nabil, son fils, à l'écart. Mais en 2013, elle apprend sa mort.
J'ai vu à la télé que ça avait tué un petit jeune à Fonds Vert. Moi, franchement, mon fils, je pensais qu'il était avec sa petite copine, comme d'habitude. C'était vendredi soir qu'il allait rentrer à la maison que vers 14h le samedi. Et après 14h, 15h... 17h, j'ai été au commissariat dire que je ne savais pas où il était mon fils. Et on m'a demandé si on pouvait me faire de l'ADN. Et je leur ai dit oui. Et le lundi, ils sont venus me dire que oui, que c'était mon fils qui était tué et brûlé derrière chez moi.
Impossible pour elle de faire le deuil de son fils. La police ne trouve pas de preuves et l'affaire est classée. Et pourtant, elle apprend que c'est son voisin qui l'a tué.
Personne ne peut se mettre à la place d'une maman qui a perdu un enfant. Parce que dans la vie, l'enfant l'accompagne ses parents au cimetière. C'est lui qui enterre ses parents.
Voici la Kessassi. Elle a perdu son fils Brahim il y a un an. Il se trouvait dans la voiture d'un trafiquant qui a été également tué. Puis son corps a été calciné.
Ils n'ont pas tué que Brahim. Ils nous ont tués à nous tous.
Brahim était influençable et traîné depuis quelques années avec des dealers de son ancien quartier. Sa mère a tout fait pour le sortir de ses mauvaises fréquentations, mais sans succès.
Une fois, je suis allée vers 2h du matin avec ma fille. Et moi, je voulais parler avec les jeunes. Je dis, voilà, laissez mon fils, tout ça. Donc, je vois un de couleur qui sort avec, comment on appelle ça, les Kalachnikovs. Il est venu vers moi. Et bon, il est parti, mais quand même, il est venu vers moi avec Kalachnikov.
En tout, Wassila a 6 enfants, dont une fille engagée avec l'armée au Mali. Et Amine, 18 ans, très investi dans l'associatif. Il a créé l'association Conscience pour mobiliser les quartiers sur des sujets de société. Mais depuis la mort de Brahim, Conscience se concentre aussi sur l'accompagnement des familles de victimes. Il regrette que l'État ait abandonné ses quartiers.
À Frévalon, par exemple, mon quartier de naissance, 8200 habitants. Moi, j'habite dans une tour où il y a 21 étages. Dans 21 étages, il y a 6 appartements. Donc, ça fait beaucoup de familles entassées les unes sur les autres. Et puis, dans chaque appartement, il n'y a pas 2 personnes. Hein. Il y a souvent 7, 8 personnes. Donc, dès qu'on entasse toutes ces personnes-là, ça crée de la misère. Le quartier est sale. Il y a des rats de partout, des cafards à chaque immeuble. Au 17e étage, il y a une dame qui avait des rats dans son appartement. On voit des gens qui ne mangent pas à leur faim. Quand on a fait les colis alimentaires pendant le confinement, c'était tout le quartier qui est descendu pour prendre un colis. Le fait que les entreprises ne recrutent pas des jeunes de quartier populaire, le racisme aussi peut-être, la volonté politique d'avoir voulu entasser toutes les personnes issues de l'immigration dans un seul et même lieu, bon bah ça a créé des tensions, ça a créé de la violence.
Pour ton frère, ce qui s'est passé, c'est qu'il a arrêté l'école.
Très jeune, puis il n'a pas passé son brevet des collèges. Puis après ça, bon bah ça a été une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à signer un temps plein. C'est les seules solutions qui s'offrent aujourd'hui dans nos cités. Moi, je vois pas d'entreprises qui viennent dans les cités en disant aux jeunes, venez, je vais vous recruter en masse. Oui, il y a des entreprises de plombiers qui viennent, ils les récupèrent, ils les font travailler toute la journée, ils les payent 30 euros, ils les reposent le soir. Mais c'est pas ça que les jeunes veulent. Les jeunes, ils veulent aussi des postes à responsabilité, des postes où ils vont pouvoir évoluer, des vrais contrats, des vrais CDI. C'est ça qu'ils veulent aujourd'hui.
Ils demandent plus de services publics et plus de considération pour les habitants pour éviter que ces jeunes ne rentrent dans les réseaux de drogue, car il le dit, ils n'en sortent que via la prison ou le cercueil.
À la réalisation d'Accent d'Europe, Françoise Grelot. Abonnez-vous au podcast, retrouvez-nous sur RFI.fr ou sur les plateformes d'écoute. À bientôt.